Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur la société russe Norgold qui projette d'exploiter une mine d'or en Guyane. Elle assure qu'elle y favorisera l'emploi local et qu'elle respectera l'environnement, mais on va voir que ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans sa mine de Guinée. Vous allez nous expliquer ça, Philippe Reltien, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Sofian Fanen, bonjour également.
Bonjour.
Alors pour le site d'information Les Jours, vous avez enquêté sur la guerre des assistants vocaux, ces enceintes connectées qu'on installe dans nos salons. Nous espionnent-ils ou pas? Vous nous dites tout dans la deuxième partie de cette émission.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Nous avons conçu le projet de Montagne d'Or sur une approche responsable d'un point de vue économique, social et environnemental. On mène des études qui prennent des années, qui coûtent des millions de dollars pour optimiser les projets, réduire l'impact négatif et maximiser l'impact positif du projet.
Voilà, celui que vous venez d'entendre, c'est Igor Klimanov, c'est le directeur du développement de la société russe Norgold. C'est cette société qui, au sein de la compagnie Montagne d'Or, projette d'exploiter une mine en Guyane française, en pleine forêt amazonienne. Vous l'avez entendu, Igor Klimanov promet qu'il offrira des emplois à la population locale, qu'il sera respectueux de l'environnement. Alors nous, à Secret d'Info, on a voulu lui dire chiche. Et comme Norgold gère une mine d'or en Guinée, nous sommes allés voir sur place ce qui s'y passait concrètement. Vous allez donc nous faire part de vos découvertes, Philippe Reltien, plutôt édifiante. Mais dites-nous, pour commencer, Norgold, en Guinée, ça ressemble à quoi ?
À une mine à ciel ouvert, d'où l'on extrait des centaines de millions de tonnes d'un minerai rouge qu'on traite ensuite dans des cuves à cyanure pour en retirer l'or. Les rejets, sous forme de boue, vont dans un grand bassin de décantation en cours de réparation, et tout cela à une centaine de mètres d'un village où vit la population locale.
Et la compagnie, elle est là depuis combien de temps, Philippe ?
Norgold a acquis la mine en 2010, en rachetant une société minière locale qu'on appelle la SMD, d'ailleurs on appelle toujours la mine comme ça. Elle est maintenant la plus productive de Norgold en Afrique.
Bien, alors on sait qu'en Guyane, Norgold promet d'employer localement pour aider au développement économique. Alors est-ce que c'est ce qui a été fait en Guinée ?
Non, c'est tout le contraire qui s'est produit. Au bout de 8 ans de gestion de Norgold, non seulement on a supprimé 900 emplois, mais on a aussi confié à des compagnies étrangères le soin de recruter les conducteurs d'engins et les agents de sécurité. D'où la désillusion de Khaled Keïta, le nouveau préfet de région.
On avait beaucoup d'espoir pour l'emploi jeune. Parce que l'un des plus gros problèmes de la Guinée aujourd'hui, c'est l'emploi jeune. Et l'espoir qu'on avait que les jeunes seraient employés, certains postes sont occupés par des étrangers, ils auraient dû être occupés par des Guinéens.
Mais pourquoi recruter aussi peu dans le village, Philippe ?
Officiellement parce que les locaux ne sont pas assez formés. Du coup, la firme propose des visas à des Canadiens, Australiens, Indonésiens ou Sud-Africains qui ont, eux, une expérience minière. On leur dit qu'on les amènera par avion, qu'ils vivront à l'abri avec tout le confort que n'ont pas les Guinéens qui, eux, vivent au village sans eau et sans électricité. Des Guinéens qui en ont d'ailleurs assez de s'entendre toujours dire la même chose, explique le sous-préfet Siaka Kamara.
Et leur argument, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est un problème de compétences. Compétences, il faut être technicien, il faut être formé à tel. Mais c'est un peu une mauvaise volonté, parce qu'on peut prendre des citoyens, on peut les prendre, les former au niveau de l'entreprise et les faire travailler.
Ouais, donc le sous-préfet, lui, considère qu'on pourrait former davantage les villageois. Bon, maintenant, même quand ils sont formés, ces salariés, Philippe, ils ne sont pas traités de la même manière.
Pas du tout. Au problème du sous-emploi s'ajoute celui du dumping salarial. On constate un écart qui peut aller de 1 à 100 entre les salaires locaux et ceux des expatriés, alors que le code minier en Guinée impose une égalité de salaire à compétences égales. Alors, Norgold affirme payer un salaire moyen 2 fois supérieur à la moyenne nationale, mais pour le chef syndicaliste de l'usine, Momo Bangoua, les écarts sont flagrants.
Il y a un grand écart quand même, du point de vue salaire et de traitement, entre les nationaux et les expatriés, ça c'est une vérité. Parce que selon ce que j'ai appris par-ci par-là, les expatriés seraient payés autour de 7 à 10 000 dollars par mois. Alors que quand vous prenez le Guinéen, en moyenne, les Guinéens sont rarement payés à 1 000 dollars par mois. Chez les sous-traitants, c'est encore pire. Il y a des travailleurs de sous-traitants qui n'ont pas 150 $ par mois.
150 $ par mois, il y en a qui touchent aussi peu ?
Effectivement, c'est le cas pour une grande partie des 135 salariés de Nordgold issus de la communauté locale sur un effectif total de 1225 employés. Mais comme les villageois ont quand même besoin de manger, eh bien ils essaient tout de même de grappiller quelques miettes.
C'est-à-dire ?
Il faut savoir que la mine, la SMD, récolte en surface le minerai à haute teneur en or. On écrème la couche supérieure avec les fameux scrappers, des pelles mécaniques géantes, et ensuite on inonde les trous. Arrive alors, au bord de la mine abandonnée, des orpailleurs avec femmes et enfants à la recherche du gramme d'or qui leur donne de quoi acheter un sac de riz. Nordgold essaie bien de les en empêcher, mais cela existe quand même, explique le sous-préfet Camara.
Quand il y a des gens qui ne trouvent pas emploi à l'assemblée, à la société, ils peuvent s'adonner à l'artisanat. Les résidus qui sont rejetés par l'usine, là, les populations exploitent ces résidus-là.
Je viens de les voir, des femmes.
Oh, voilà, c'est des femmes, de nombreuses femmes, de nombreux garçons sont dans ces résidus-là.
Ils pataugent.
Ça patauge dans la boue, partout, dans l'eau, pour chercher de quoi vivre.
Ouais, du coup, Philippe, vous avez pu constater qu'en Guinée, loin de résoudre le problème de l'orpaillage sauvage, ben on l'a au contraire amplifié.
Exactement. La mine a créé un appel d'air et ils sont désormais près de 150 000 dans la région à tenter leur chance. Des locaux, mais aussi beaucoup d'étrangers qui n'ont pas trouvé de travail et ils ne sont pas du tout clandestins d'ailleurs, comme on pourrait le croire. Les autorités prélèvent au passage des taxes parce que l'or qu'ils extraient, c'est tout de même au total 10 tonnes par an, alors que la production de Nordgold n'est que de 6 tonnes.
Ouais, 6 contre 10, ouais, c'est plus que la production industrielle. Donc, mais si c'est légal, Philippe, en quoi c'est un problème, cet orpaillage artisanal ?
D'abord, l'effet est désastreux pour l'écosystème parce que ça crée une deuxième saignée dans la forêt. On coupe du bois pour faire des poutres qu'on place dans les galeries de mines artisanales. Mais surtout, c'est très dangereux. Des milliers de gens creusent eux-mêmes avec les moyens du bord. D'où des risques d'éboulement sous le climat tropical avec des pluies diluviennes fréquentes. Par exemple, voici Moussa Konyaté, 29 ans, jeune diplômé guinéen, qui attend une opportunité d'emploi à la mine. Et il m'a expliqué pourquoi ils sont aussi nombreux à tenter leur chance.
Comme les gens n'en trouvent pas de boulot, c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est investi dans l'exploitation artisanale.
Regardez ici, il y a une personne au fond d'un trou.
Il faut regarder dedans, il y a une personne qui est là, il va creuser quoi ? Il va crever ça là.
Il pleut très fort en ce moment. Donc ça veut dire que ça peut se remplir très très vite.
Exactement.
Un trou comme ça.
Exactement, ça peut se remplir. Il y a des mesures d'accompagnement pour ça. Ah, ouais, on met les pompes dedans.
L'éboulement, il y a des morts par rapport à ça.
Il y a des morts dans des éboulements, nous dit un de ces orpailleurs artisanaux. Parce qu'ils travaillent dans des conditions extrêmement précaires.
Oui, on voit des femmes et des enfants pieds nus dans des marigots en train de porter des bassines sur la tête ou de malaxer de la boue dans le bruit et la puanteur des concasseurs. Mais on se sert aussi du mercure pour séparer l'or de sa gangue, ce qui est aussi un produit toxique comme le cyanure qu'on utilise également dans la mine. Bref, ça patauge dans les torrents environnants, au pied du lac de résidus où se situe le village, tout comme au fond des sites abandonnés des autres compagnies minières.
Cette puanteur de gasoil et ce boucan extraordinaire,
oui.
Donc on concasse, on met de l'eau,
oui.
Ça sort en boue, c'est ça ?
C'est ça exactement, on met le gravier dedans, ça broie le gravier, et puis quand ça broie le gravier, maintenant l'or vient sur le tapis.
Les enfants sont là au milieu aussi,
ouais.
C'est-à-dire que les enfants accompagnent les parents ou donnent un coup de main, c'est ça ?
Oui, c'est ça, s'ils viennent aider leurs parents.
Oui.
Pour transporter le gravier.
Oui,
ouais. Ouais, c'est l'or.
Ah oui, ça y est, je vois. Là, c'est une sorte de paillette.
Une petite paillette d'or déposée au fond de la calebasse qui pèse 0,1 g. Elle devrait rapporter autour de 3,50 €. Et cet or de Haute-Guinée se revend ensuite sous la forme de lingots à Dubaï, essentiellement pour en faire des bijoux.
Bon, et chez Nordgold, Philippe, on en dit quoi de tout ça ?
Eh bien, qu'à côté de ça, on fait beaucoup pour la communauté. La compagnie finance des forages, rénove des écoles et donne 35 € de prime mensuelle à chaque enseignant. Elle entretient aussi des mosquées. Elle paye chaque année 3 voyages à la Mecque à des villageois.
Ouais, donc elle joue par ailleurs les Pères Noël. Bon, cela dit, Philippe Reltien, on peut quand même s'interroger. Si cette société russe, Nordgold, est capable d'exploiter une mine en laissant ainsi de côté certains qui vivent à ses portes, pourquoi est-ce qu'elle se comporterait différemment en Guyane ?
C'est bien ça la question, et je l'ai posée au sénateur La République En Marche de Guyane, Georges Patient. Alors, lui est convaincu qu'on agira chez lui autrement, parce qu'en Guyane, on a prévu de former avant des cadres et des ouvriers qualifiés. Et il est d'autant moins inquiet que ce modèle fonctionne déjà ailleurs.
L'exemple que je pourrais vous citer, c'est la province Nord en Nouvelle-Calédonie, où, dès la prise de décision, des formations ont été assurées pour que, dans tous les secteurs, il y ait des emplois locaux, que ce soit au niveau des chauffeurs, au niveau des conducteurs, au niveau des géologues. Donc c'est ce que je préconise pour la Guyane. Et je crois que l'État français lui-même aussi serait favorable à ce qu'on s'inspire de ce qui a été mis en place en Nouvelle-Calédonie.
Oui, donc lui considère qu'il existe des solutions, mais encore faut-il qu'on les applique, ces solutions. Et qu'est-ce qui garantit que ce sera le cas ?
Eh bien, un cadre légal, en principe, un peu plus contraignant qu'en Afrique. Et ensuite, cette promesse. D'après Pierre Paris, le directeur de la compagnie Montagne d'Or, dont Nordgold est l'actionnaire principal, 90% des emplois iront à des salariés locaux et seront payés au-dessus de la moyenne guyanaise. Bref, il affirme qu'on n'y fera pas la même chose qu'en Guinée.
Je suis président de cette société de droit français, et donc nous sommes respectueux de la réglementation française. Donc dans ce cadre-là, nous avons des règles strictes pour ce qui est de l'embauche. Nous pouvons embaucher que des personnes qui sont légalement sur le territoire. Et nous sommes engagés à plusieurs reprises à avoir plus de 90% d'emplois locaux sur ce projet.
90% d'emplois locaux pour 700 postes à pourvoir, mais est-ce que cette promesse est tenable ?
La promesse de respecter le droit du travail et donc de ne pas sous-payer certains salariés en France, oui. En revanche, rien ne garantit a priori que sur l'emploi local, on tiendra parole. D'ailleurs, vous avez déjà en Guyane un grand nombre de travailleurs surinamiens et brésiliens. C'est ce que nous explique le journaliste Erwan Seigneurin, qui suit pour le quotidien de Guyane les démêlés de la compagnie Montagne d'Or avec les autorités.
Rien dans la loi européenne et française n'oblige à faire de la préférence locale. Évidemment, la compagnie a tout intérêt à le faire, vu le rejet ou l'assentiment que peut avoir la population à son égard. Néanmoins, la réalité en Guyane, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs qui travaillent dans les mines d'or sont essentiellement des gens qui viennent des pays limitrophes, où il y a une culture de l'industrie minière. C'est compliqué de dire que ce sera que de l'emploi local, ce sera probablement des gens qui seront détachés.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que Nordgold emploie peu dans le village qui se trouve tout près de sa mine de Guinée et que loin de disparaître, l'orpaillage sauvage, lui, s'est développé, examinons la deuxième promesse que fait la société pour la Guyane, c'est celle d'être respectueuse de l'environnement. Alors là encore, Philippe Reltien, en Guinée, est-ce que c'est le cas ?
Eh bien là aussi, on va déchanter. Mais ce qu'il faut d'abord préciser, c'est qu'au début, personne ne s'inquiétait de ce qui pourrait se passer là-bas. C'est ce que m'a expliqué Ludovic Dupin de la revue Novétique, le magazine de la mine responsable de la Caisse des dépôts.
Il n'y a eu aucune protestation en Guinée face à ces mines industrielles, ces grandes mines industrielles, pour deux raisons. La première, c'est que ces pays ont une histoire minière, une histoire des mines industrielles de grand format, donc personne ne s'est inquiété, personne ne s'est révolté. Et d'autre part, ces entreprises qui sont arrivées dans ces pays-là ont distribué de l'argent autour d'eux. Et quand un paysan reçoit 2 ans, 3 ans, 10 ans de salaire en une fois, il laisse son champ, il laisse sa forêt, il laisse son exploitation, ça ne pose pas de problème. Et en plus, quand l'histoire minière de la Guinée a commencé, l'environnement, ce n'était pas vraiment un sujet.
L'environnement, c'était pas un sujet, et aujourd'hui c'en est un.
Oui, et grave, parce que le lac de résidus cyanurés de la mine est sur le point de déborder, et ses digues sont usées. Or, l'une de ces digues se trouve juste au-dessus d'un village de 1700 habitants qui s'appelle Carrefour. Les habitants sont d'autant plus inquiets que depuis 5 ans, du bétail meurt en allant boire l'eau du lac. On y a bien fait des travaux de remblai, mais il n'y a même pas de barbelés et on y accède toujours aussi facilement. Écoutez donc ce que m'a dit le chef du village, Fabala Keïta.
Aucun habitant n'est mort du cyanure dans le village. Aucun cas mortel a signalé. Mais de nombreuses bêtes ayant bu de l'eau du lac cyanuré sont mortes. Des vaches, des chèvres, des moutons ou encore des poules. Les carcasses qu'on retrouvait sur la berge devaient être déposées devant la porte de la société minière pour espérer obtenir un dédommagement. Mais toutes les bêtes n'ont pas été remboursées. Celles qui mouraient à une distance au-delà de plusieurs mètres du lac n'étaient pas remboursées parce qu'on considérait que le cyanure n'était pas responsable de leur mort.
Et je précise qu'aujourd'hui, il n'a pas été prouvé que le cyanure est responsable de ces morts, même s'il existe une présomption.
Oui, alors là, vous nous parlez des animaux, Philippe. Mais ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que les habitants, eux aussi, se plaignent des effets de la mine.
Oui, selon des témoins qui habitent le village, il est arrivé qu'on s'enferme dans la case pour ne pas respirer les odeurs du lac. Le cyanure se transforme en gaz toxique au contact de l'eau. Et il est même arrivé, par temps de pluie, qu'on voit ruisseler de la boue du lac par une brèche ouverte au-dessus d'un terrain de foot. C'est ce que m'a raconté l'un de ses habitants, Amadou Camara.
Quand il pleuvait, on voyait que la cyanure débordait vraiment.
On voyait la boue qui coulait.
Oui, oui.
C'est ça. C'est bien ça, c'est une boue qui coule. Hein.
Oui, 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 oui. Quand il pleut beaucoup, ça descend au village.
Bon, maintenant c'est fini parce qu'on a fait réparer, on a mis ce remblai. C'est bien ça?
Oui.
Ça vient d'être fait, c'est tout neuf.
Oui, oui.
C'était il y a un mois.
Un mois, deux mois comme ça.
Oui, les camions sont encore là.
Oui, oui, c'est pas encore fini.
Les arbres qui tremblent dans la boue, là, ils ont perdu leurs feuilles, il n'y a plus rien, ils sont morts.
Oui, ils sont tous morts comme ça.
C'est l'odeur maintenant qui vient au village, quoi.
L'odeur? Quelle odeur? Quel genre?
Parfois, la nuit, on sent les gaz toxiques qui s'abattent sur le village. Parfois, on peut voir beaucoup de personnes qui ont la toux.
Oui, qui ont la toux, qui toussent, pas très rassurant en effet. Et ce que vous avez aussi constaté, Philippe, c'est que depuis qu'il y a la mine, c'est toute une vie sauvage en fait qui a disparu autour du village.
Oui, il n'y a pas que les animaux domestiques qui meurent, les oiseaux aussi. Rien ne les empêche de se poser sur les quelques arbres noircis qui émergent de cette boue. Bref, pour le sous-préfet Siaka Camara, c'est tout un écosystème qui vient d'être chamboulé.
Les gens s'adonnaient à l'agriculture, à l'élevage, à la chasse. Mais maintenant, avec ces machines dans ces brousses-là, il n'y a pas de bêtes, les bêtes ont fui, les espèces ont disparu, l'environnement, l'écosystème a atteint. On a peur des conséquences un jour. Les conséquences peuvent ne pas être immédiates, mais dans l'avenir.
Oui, dans l'avenir, et c'est justement parce qu'on s'inquiète pour cet avenir, Philippe, qu'on veut le quitter ce village?
Oui, pour l'instant, les effets constatés se limitent à la faune et à la flore. Mais comme il est en plus question d'agrandir la mine et le lac, le chef du village a demandé que tout le monde soit relogé ailleurs, aux frais de la mine, avec des compensations, comme par exemple un emploi par famille.
Les gens sont très inquiets des effets du cyanure. On vit à 100 mètres du réservoir. Donc la population s'est trouvée dans l'obligation de partir après avoir proposé à la société minière soit de déplacer le lac de cyanure, soit de déplacer le village. Et en même temps, on a demandé au gouvernement de venir nous porter assistance. Il était clair que si l'on ne pouvait pas faire reculer le lac, c'est nous qui devrions être relocalisés.
Ouais, relocalisé, on parle quand même de 1700 habitants là. Alors cette demande de déplacement du village, elle en est où, Philippe ?
Eh bien, la mine a envoyé une lettre officielle au préfet pour l'informer de sa décision, d'abord d'augmenter sa production, puis d'agrandir la mine et le lac de résidus. Et l'entreprise juge, elle aussi, nécessaire de déplacer le village. On va donc bien le reconstruire ailleurs.
Et ça ne dérange pas Norgold d'agrandir un site aussi dégradé ?
A priori, non. La direction m'a expliqué simplement qu'elle respecte la réglementation internationale et qu'elle est très attachée aux préoccupations environnementales.
Ouais. Bon, mais là encore, Philippe, on est quand même en droit de s'interroger. Un remblai pour boucher une brèche dans un lac cyanuré. Des animaux qui meurent, des habitants qui toussent. Là encore, qu'est-ce qui nous dit qu'en Guyane, on n'observera pas le même phénomène?
Eh bien là encore, difficile de répondre, mais pour Ludovic Dupin, de la revue Novétique, Norgold n'a pas intérêt à se comporter de la même manière. D'abord parce que l'état de droit en France est plus respecté qu'en Guinée, mais aussi parce que la médiatisation et la pression éventuelle des populations locales pourraient jouer contre son image. Et c'est pour cela que Norgold donne des garanties.
L'entreprise promet que les bassins de rétention vont garder cyanure cloisonné quelque part et qu'il ne s'échappera pas. S'il y a une fuite de cyanure dans la nature, l'entreprise a plusieurs problèmes. D'une part, l'État français va l'attaquer, elle devra rembourser des sommes énormes. D'autre part, elle va perdre de l'argent, parce que c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de réparations à faire sur son matériel et elle perd du cyanure. Et d'autre part, elle va avoir une image catastrophique et les investisseurs peuvent se détourner d'elle.
Ouais, donc le risque d'une chute des cours pourrait pousser Norgold à être plus vertueux. Bon, ce qu'on peut remarquer à ce sujet, en tout cas Philippe, c'est que la société a encore lâché du lest récemment.
En effet, fin août, la société modifie son projet pour annoncer qu'en Guyane, les boues résiduelles de l'usine, qui seront déversées dans un lac de 190 hectares, seront décyanurées avant d'être rejetées à l'air libre. Un procédé inexistant en Guinée. Bref, pour Pierre Paris, qui porte le projet, on fera les choses comme il faut.
De notre côté, nous respecterons bien entendu tout ce qui nous est imposé. Et puis, nous avons déjà indiqué que nous mettons en place un modèle responsable. Et ce qui est important de rappeler tout de même, c'est que le projet que je porte avec ma société et nos actionnaires en Guyane est loin de toute habitation, est loin de toute exploitation agricole. Nous sommes dans un cadre où la première habitation est à plus de 50 km.
Ouais, à plus de 50 km, sous-entendu, pas besoin là de déplacer un village. C'est si simple que ça, Philippe ?
Non, un chercheur et professeur en géologie de Nancy m'a par exemple expliqué que dans 70% des cas, les accidents sont dus aux digues des réservoirs qui cèdent. Or, en Guyane, les événements climatiques peuvent être violents. D'où l'inquiétude de Laurent Kell, le directeur de l'ONG environnementale WWF en Guyane. Lui est persuadé qu'un problème sur le site aurait des répercussions catastrophiques sur tous les villages en aval.
Les impacts, ils sont sur des centaines de kilomètres. Donc on peut toujours jouer sur une distance toute relative. À partir du moment où la catastrophe industrielle arrive, je dirais que tout le monde est malheureusement potentiellement concerné dans l'ouest guyanais en ce qui concerne le projet Montagne d'Or. Au premier rang, le bourg de Mana, fleuve qui couvre le nord-ouest de la Guyane. On a des populations qui sont à proximité immédiate de ces berges. On a une activité de pêche, on a une activité de tourisme qui se développe dans ces zones-là. Donc dans le cas de contamination de ce bassin versant, ce serait toutes ces activités qui serait très directement impactée.
Et tout le problème est là, en fait. Quels que soient les engagements pris, même de bonne foi, seront-ils tenus ? Et là-dessus, le directeur général du WWF, Pascal Canfin, a lui aussi des doutes.
Comme toujours dans ce type de projet, il y a une réalité qui est promise par les opérateurs, et puis il y a la vraie vie ensuite. Et je crains que, compte tenu de la sensibilité de l'écosystème dans lequel cette mine s'inscrirait, en pleine Amazonie française, à côté de réserves de biosphère, dans des endroits où nous avons des espèces, des centaines d'espèces protégées, il y a très peu de chances que lorsque l'on regarde les autres projets miniers de par le monde, et donc pourquoi celui-là ferait-il exception ? Il y a très peu de chances que les promesses qui sont prises par l'opérateur soient tenues dans la vraie vie.
Ouais, donc si on se résume, Philippe, Norgold promet de faire différemment en Guyane, mais beaucoup doutent de ses promesses. Alors, qui croire dans cette histoire ?
Eh bien, chacun doit se faire son idée, mais si vous le voulez bien, moi je vous propose de laisser le mot de la fin au sous-préfet de Sigirini, en Guinée. Je lui ai justement demandé si lui pensait que les Guyanais devaient s'inquiéter de voir se reproduire chez eux ce que lui a vécu sur son territoire.
Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Eh bien, c'est une réponse presque de Normand, tout en nuance. Lui ne pense pas que Norgold fera la même chose en Guyane, et il m'a expliqué pourquoi.
Là-bas, les gens sont intellectuels, je crois, et ils ne peuvent pas être pris au piège comme par là, là où il n'y a que des analphabètes. Mais, ce qui est clair, c'est que partout il y a implantation de grandes usines, de grandes exploitations industrielles, les conséquences ne manqueront pas. On pourra les diminuer, les atténuer, mais il y aura des conséquences.
Il y aura des conséquences, et c'est ce qui fait de ce dossier un sujet à haut risque pour le gouvernement français, car beaucoup y voient un possible nouveau Notre-Dame-des-Landes. Après la démission de Nicolas Hulot, et alors que l'enjeu écologique s'est replacé au centre du débat, ce sera sans doute le véritable premier test pour le nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy.
Oui, réponse de l'État, a priori, d'ici la fin de l'année.
Si le calendrier est respecté.
Bien, merci Philippe Reltien pour cette enquête. Alors je précise qu'on peut la réécouter ou la lire sur franceinter.fr. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires sur franceinter.fr, mais aussi sur la page Facebook de Secret d'Info et sur Twitter, Investigation RF. Mais restez avec nous dans quelques instants. Bien, nous allons nous pencher sur la guerre des assistants vocaux, ces enceintes connectées qui s'intéressent à votre porte-monnaie. Un blues saturé, syncopé, en apparence tout droit sorti de la Louisiane, et pourtant, c'était extrait de l'album Mojody du trio Delgrès, qui est emmené par le français Pascal Danay.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Sofian Fanen, bonjour.
Bonjour.
Pour le site d'information Les Jours, vous avez réalisé une enquête sur les assistants vocaux. Ce sont ces enceintes connectées qu'on voit fleurir, avec lesquelles on peut parler, en tout cas on peut leur parler, et qui sont censées exaucer nos désirs. Elles se vendent maintenant comme des petits pains. Alors on peut rappeler qu'initialement, ces enceintes avaient été conçues pour l'armée.
Et effectivement, cet assistant vocal, en fait, devait à la base aider des gens qui étaient plutôt dans les centres opérationnels à se décharger des choses, je dirais, un peu matérielles. L'organisation des réunions, caler une salle, envoyer un message à quelqu'un pour pouvoir se concentrer sur l'opérationnel, c'est-à-dire les soldats qui sont, eux, sur le terrain de l'autre côté de l'écran. Et cet outil-là a été ensuite déployé pour le civil sous le nom de Siri au sein d'une application, puis des téléphones Apple quand Apple a racheté Siri. Et toute cette technologie a ensuite suivi son cours. Alexa d'Amazon, assistant de Google, Facebook aussi veut lancer un assistant vocal, Microsoft à Cortana, on est en plein dedans.
Et Orange devrait s'y mettre aussi ?
Orange s'y met, Orange est dessus, leur projet s'appelle Jingo, il est en train d'être terminé, il est en test déjà en France et en Allemagne, donc on y vient aussi, a priori courant 2019 pour Orange.
Alors ce que vous avez constaté, c'est que c'est vrai que Siri, auquel on est un peu plus habitué, c'est une voix masculine. Les autres, ce sont tous des voix féminines.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il faut même spécifier que Siri a une voix masculine en France, mais c'est une exception. Siri a une voix féminine aux États-Unis, un peu partout. Très majoritairement, même quasiment exclusivement, les assistants vocaux ont des voix féminines et des prénoms. Alexa, Cortana. Et effectivement, c'est bêtement sexiste, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui dit, OK,
on donne des ordres à quelqu'un, et forcément, c'est une femme.
C'est le modèle de la secrétaire des années 50 qu'on appelle à travers une paroi, dans les films, dans les séries télé, on appelle la secrétaire à travers la paroi et puis elle arrive avec le dossier, le café, etc. Et en plus, la voix qui s'exprime dans la publicité, c'est-à-dire la voix publique de ces assistants vocaux, est une voix féminine. Donc, on peut toujours dire oui, mais vous pouvez prendre une voix masculine, etc. Non, le choix par défaut, c'est une voix féminine. Amazon, leur assistant s'appelle Alexa, il s'appelle pas Patrick.
Ouais. Alors, ce que vous expliquez dans votre enquête, c'est que les assistants vocaux, bah, c'est pas une intelligence artificielle. Ils sont un peu bêtes quelque part. Il y a plein de consignes qu'on leur donne et qu'ils ne comprennent pas. Et du coup, il y a des petites mains, il y a des gens derrière.
C'est clairement des machines qui sont très performantes, très puissantes, mais elles ne sont pas capables de comprendre vraiment ce qu'on leur dit. Elles comprennent si on leur donne un ordre, c'est-à-dire si on a une chaîne de mots que l'assistant est capable de reconnaître et de dire si j'ai ces deux mots qui sont dans la même phrase, il y a 83,8% de chances que ça veuille dire ça, donc je fais ça. Mais seulement si on est dans les 10 autres pourcents par exemple, bah il se passe un truc qu'on n'attend pas forcément.
Et c'est là qu'il y a du monde derrière.
Et c'est là que derrière on pense que tout ça c'est des histoires de serveurs, dans le cloud, de big data, etc. C'en est, mais c'est avant tout
des gens
qui sont soit en France, soit en Allemagne, soit aux Philippines, au Bangladesh, etc. qui sont des travailleurs du centime, c'est-à-dire ils sont payés quelques centimes de leur monnaie pour effectuer une micro-tâche. Et cette micro-tâche, ça va être, est-ce que cette phrase qu'on a dite à Cortana, à Alexa, est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Ils cliquent sur un bouton parce que eux, ils vont dire oui, bien sûr que ça veut dire ça, parce qu'un humain peut comprendre que ça veut dire ça. Quand je vous dis je voudrais acheter une boîte d'œufs, vous comprenez que je veux des œufs pour faire une omelette. Mais Alexa comprend une boîte d'œufs comme le chiffre. Et donc, il y a un humain derrière qui va lui dire non, non, deux là, dans cette phrase-là, ça veut dire les œufs pour faire une omelette. Et donc, comme ça, on éduque, en fait, des intelligences artificielles. Mais c'est ce qu'on fait tous depuis quelques années sur Internet. Par exemple, quand vous avez ces fameuses CAPTCHA, là, qui vous disent est-ce que vous êtes un robot, etc. À un moment, on devait reconnaître les panneaux, par exemple, dans une image,
ou reconnaître les voitures. Il faut les images qu'on reconnaît, les chats. Pour bien montrer qu'on est là, quoi.
Et ben, ça, c'est l'éducation d'intelligence artificielle. Donc, on le fait tous depuis plusieurs années.
Et alors, il y a des choses qu'elle n'arrive pas encore à comprendre. C'est par exemple quand on veut faire des achats. Si je veux une marque de café, bah c'est vrai que c'est trop compliqué parce qu'il faut savoir quelle marque de café, dans quel type d'emballage, avec quel type de dosette ou sans dosette. Donc, il ne peut pas répondre.
Oui, donc c'est pour ça qu'Amazon est en train de mettre le pied dans l'espace physique. Amazon, aux États-Unis, a racheté une chaîne de produits frais qui s'appelle Whole Foods. Ils ont lancé une boutique également. En France, ils ont passé un partenariat avec Monoprix parce qu'ils ont besoin de nos paniers, en fait. Ils ont besoin de nos habitudes d'achat. À partir du moment où ils savent que votre marque de café, c'est celle-là, que vous aimez le grain fin parce que vous avez une machine expresso, etc., vous n'avez plus besoin de le spécifier. Amazon le sait. Donc, ils ont besoin de ce savoir-là. Et pour l'instant, ce savoir, il est dans les magasins physiques sur notre ticket de caisse.
Amazon prépare de l'électroménager connecté.
Effectivement, Amazon lance aux États-Unis un micro-ondes, il lance une horloge également, il lance un petit appareil qui se branche dans la voiture, il lance des appareils qui se branchent sur les chaînes Hi-Fi pour transformer n'importe quelle vieille chaîne CD
avec
en
un micro sur
Alexa,
chacun de ces appareils.
Avec un micro sur chacun de ces appareils.
À qui on pourra parler comme on parle à l'enceinte.
Le rêve d'Alexa, d'Amazon et de l'ensemble de Google, Apple, hein, ils font tous pareil, c'est que dans notre environnement, on puisse dire quelque chose et il va se passer quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on souhaite, ce qu'on a envie. Ça va se passer.
Avec un mode de fonctionnement assez dingue quand on y pense, parce que ça veut dire en gros qu'on va parler à un appareil qui lui-même enverra nos consignes dans la Silicon Valley, qui ensuite recontrôlera éventuellement nos appareils. Si par exemple je dis au micro-ondes, tiens, fais-moi cuire un plat à telle température, boum, ça part à l'autre bout de la planète pour revenir donner des ordres à l'appareil qui est à côté de moi.
Exactement. Alors on ne sait pas exactement où ça part, parce que ça se trouve, ça part dans des serveurs qui sont en France. Mais dans tous les cas, s'ils sont sur des serveurs en France, ça peut partir aux États-Unis, etc., etc. Ça pose aussi une question écologique. Demander à Alexa d'allumer une lumière alors que le bouton est à 2 mètres de vous. Bon, tout le monde est un peu feignant et il faut toujours compter sur la feignantise des gens, c'est un moteur du capitalisme. Mais si cette information passe par un serveur qui est au fin fond de la Finlande pour revenir pour allumer une lumière, ça pose quand même un problème écologique.
C'est quand on délègue la capacité d'agir sur notre maison à quelqu'un qui est à l'extérieur, en fait.
Exactement. Et tout ça avec une impulsion électrique qui, cumulée par des millions et des milliards d'impulsions électriques, commence à faire une masse d'électricité absolument, absolument dingue. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent technologiquement et des voix qui s'élèvent politiquement pour dire, encadrons tout ça, les lumières, le micro-ondes, etc., faut que ce soit traité en local, c'est-à-dire ça ne sort pas de chez vous, ça reste dans votre petit réseau Wi-Fi maison, il n'y a pas besoin d'envoyer ça vers un serveur. L'intelligence pour allumer une lumière, elle n'est pas extrêmement puissante.
Alors, il y a aussi la question, on va terminer par ça, il y a aussi la question que beaucoup se posent. Il a été sous-entendu ou dit que ces enceintes dans nos salons pourraient nous écouter et donc finalement deviennent des espions à l'intérieur de notre domicile. Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dedans?
Alors, ce que disent les marques, c'est qu'on n'enregistre pas tant que vous ne parlez pas. Par contre, dès que vous parlez, effectivement, c'est enregistré, c'est stocké. Et ça, on ne sait pas pour combien de temps c'est stocké, parce que les marques disent « oui, mais on en a besoin pour améliorer le système ».
Mais ça veut dire qu'elles ont la capacité d'écouter ce qu'on dit, même quand on ne leur parle pas.
Techniquement, oui. Et on sait très bien que aucun service est inviolable. Il y a aucune marque. Google vient d'avoir une fuite gigantesque sur son réseau Google+. Facebook a des fuites tout le temps. Tout Internet fuit. Par contre, est-ce que ça va plus loin que la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Quand vous avez votre téléphone portable posé sur la table de votre salon, il peut aussi vous entendre, il peut aussi être hacké. La vraie différence avec le téléphone portable, c'est est-ce que j'ai envie d'imposer ça à ma famille entière? Il y a des enfants dans les foyers. Il y a des gens qui veulent peut-être pas. Il y a des invités. Peut-être que dans 15 ou 20 ans, ma fille va me faire un procès en disant, mais papa, pourquoi t'as fait rentrer Alexa dans la maison? Maintenant, moi, toute ma vie privée, elle est en ligne, elle nourrit Amazon. Amazon a un profil de moi alors que je ne veux pas. J'étais petite, je ne t'ai jamais dit oui. Ça, c'est une vraie question.
Merci Sophie Anfanen, en tout cas, pour toutes ces explications. Je rappelle que votre enquête sur les assistants vocaux est publiée sur le site lesjours.fr. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Christophe Imbert, notre réalisateur. Merci à Maxime Ingrand, à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui et à Jean-Baptiste Audibert qui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, dans CO2 Mon Amour, Denis Chessou recevra François-Xavier Drouet pour son film Le Temps des Forêts. Quant à moi, au nom de la cellule Investigation de Radio France, je vous souhaite un excellent week-end.